A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous savez quoi? Parce que dans ce podcast, on vous prouve chaque semaine que le bonheur peut venir même quand on n'y croit plus. Parce qu'au fond, chaque histoire est un apprentissage qui nous mène à l'histoire ultime. Gardez toujours espoir. Et si jamais vous aviez encore des doutes, Margot va vous raconter une histoire qui va vite les dissiper.
Je m'appelle Margot. On est en 2010 et j'ai 18 ans. Je suis sur l'année de mon bac. À ce moment-là, je suis une personne qui est un petit peu mal dans sa peau, qui n'a pas confiance en elle, qui a un peu du mal à faire des rencontres. Alors, j'ai des amis, mais au niveau des relations, j'en ai eu quelques-unes, mais c'est pas trop ça. Et je me retrouve pas trop dans les gens autour de moi. Je me sens un peu mise à l'écart. Et je rencontre un homme à cette époque. C'est une personne qui montre tout de suite beaucoup d'intérêt pour moi, qui montre qu'il me comprend. Il est toujours là pour moi et je me sens vraiment comprise, acceptée avec lui. Il me fait me sentir bien. Il me fait me sentir bien dans ma peau. Et ça va durer quelques mois. Et en fait, je vais tout lui donner. Je vais penser qu'à lui en permanence. Et finalement, petit à petit, je vais commencer à rentrer dans son jeu parce que finalement, c'est un jeu, c'est malheureux à dire, mais je pense que cette personne a finalement pas beaucoup d'intérêt pour moi et qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez toxique. Donc, à cette époque, j'ai quelques amis autour de moi avec qui je m'entends plutôt bien et puis petit à petit, en fait, il va m'éloigner d'eux. Alors, en me disant que finalement, ils sont pas intéressants, qu'on est mieux que tous les deux. Puis moi, en fait, je vais suivre un peu ça comme parole d'évangile et je vais m'éloigner petit à petit des gens que j'ai autour de moi pour finalement ne voir plus que lui. Au début, il est très gentil, c'est quelqu'un de très attentionné et puis petit à petit, ça va être de moins en moins. Donc, il me met dans des situations désagréables pour moi, donc avec des gens que j'ai pas forcément envie de fréquenter. Il va commencer à piquer des colères un petit peu pour rien. Je comprends pas trop, je sais pas trop sur quel pied danser, j'ai tout le temps l'impression de marcher sur des œufs. Et finalement, il y a beaucoup de disputes dans le couple à ce moment-là. Donc, ce qui avait commencé comme une idylle commence un petit peu à devenir quelque chose de désagréable. Je commence à me sentir mal. Mais j'ai tellement en tête, finalement, le début de la relation où tout est parfait, que je continue à le fréquenter. À ce moment-là, j'ai l'impression de vivre quelque chose d'incroyable et de privilégié avec quelqu'un qui, en plus, peut-être est plus âgé que moi et plus mature. En tout cas, c'est l'impression que j'ai à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai vraiment la sensation d'avoir de la chance qui s'intéresse à moi. Il a vécu plein de choses, il me fait découvrir plein de choses. Donc en fait, je me dis, mais quelle chance j'ai. Moi, je suis personne, je suis rien, je suis juste une petite jeune qui passe son bac, qui est insignifiante, je me sens pas jolie, je me sens pas intelligente. Et j'ai cette personne qui me dit qu'il n'a Dieu que pour moi. Donc forcément, je suis flattée. Et puis effectivement, je l'admire. Je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on vit. C'est la plus belle relation et je suis folle amoureuse de lui. Complètement aveuglée par cet amour. Donc je subis ça et en plus il est tellement toxique qu'en fait il arrive à me faire croire que de toute façon j'aurai jamais autre chose que la relation qu'on a. C'est tout ce à quoi je peux prétendre dans ma vie, parce que de toute façon, tout le monde autour de moi est nul, même pas comme je devrais être aimée, et qu'il n'y a que lui qui m'aime, il n'y a que lui qui est capable de m'offrir la vie que je mérite. Et finalement, il arrive à me couper de tout le monde autour de moi, donc il me coupe de mes parents, il me coupe de mes amis. Je passe mon bac à cette période-là, et juste après, j'emménage avec lui. Et un matin, il pète un câble, il me dit « j'en peux plus de vivre ici », et on part vivre à Nice. 3 heures après, on est dans un train, sans plan. Lui, il a de la famille là-bas, c'est tout ce qu'on a, en fait. À ce moment-là, de la relation, il fait encore des efforts, il trouve un travail... On arrive encore à s'entendre à certains moments et on n'est pas encore rentré dans des violences physiques. Donc c'est vraiment des violences psychologiques. Donc on arrive à trouver un appartement, on s'installe et c'est là que vraiment l'enfer commence parce que en fait, il se rend compte que là, il m'a vraiment tout à lui, qu'il m'a bloqué, que j'ai plus personne, que moi, j'ose plus partir, que j'ai accepté déjà tellement de choses. Et à ce moment-là, il se déchaîne complètement, c'est-à-dire qu'il arrête de travailler et les brimades deviennent physiques. C'est plus uniquement du psychologique. Donc, il commence à me frapper, à me violenter de plein de manières différentes. C'est des violences physiques, sexuelles, et je vis vraiment un enfer. Je suis au bout de ma vie, et moi, je continue. Alors, lui, il ne travaille pas, donc moi, je dois subvenir aux besoins de notre foyer. J'ai 19 ans, j'ai seulement mon bac en poche. Donc, je tire complètement une croix sur les espoirs d'études, de vie meilleure, de postes à responsabilité que je pouvais avoir. Et en fait, j'enchaîne des petits boulots et je m'endette parce que forcément, à 19 ans, je ne trouve pas de job très bien payé. Donc, je m'endette complètement pour que lui puisse continuer à vivre. Puis à côté de ça, il me frappe, il m'insulte. Il est extrêmement jaloux. Parfois, il me séquestre dans l'appartement. Donc, j'ai du mal à aller travailler. Même parfois, il m'empêche d'aller travailler. Donc, je perds aussi des jobs parce qu'il sait qu'il y a des hommes là où je travaille. Donc, il veut vraiment me garder sous sa coupe. J'ai extrêmement honte de ce que je suis en train de vivre. Je me rends compte que c'est pas normal. Ça a atteint des niveaux qui sont tellement violents que je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas normal de vivre ça. Mais en fait, j'ai honte d'en parler. J'ai honte de demander de l'aide. Et j'ai plus personne autour de moi à ce moment-là. J'ai plus d'amis à qui en parler. Et moi, de mon côté, je reste dans le silence parce que je me dis, mais en fait, c'est de ma faute. C'est de ma faute ce que je vis. C'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui suis partie avec lui. Et à aucun moment, je me dis, qu'on pourrait avoir envie de m'aider et qu'il y a une solution pour sortir de ça. Et un jour arrive l'anniversaire de mes 21 ans. Je rentre le soir du travail. On se dit, c'est super, c'est mes 21 ans, on va faire un petit repas ensemble. Donc on a un petit appartement avec une petite terrasse et c'est Nice, donc il fait super beau, il y a du soleil, voilà. Et donc on commence à préparer le repas, ça se passe super bien, il est super gentil. Contre toute attente, il m'a même acheté un cadeau. Un cadeau qu'il a acheté avec mon propre argent, mais un cadeau quand même. Et à ce moment-là, je me dis, peut-être que ça peut bien se passer. Et donc, on s'installe à table. Et subitement, il arrête de parler. Et je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles pas? Et tout ce qu'il me répond, c'est, tu sais très bien pourquoi je ne te parle pas. Et je ne comprends pas, parce qu'il ne s'est rien passé, parce que j'ai tellement l'habitude de marcher sur des œufs qu'en fait, je ne fais plus rien, je ne parle plus avec personne, j'ai plus d'amis, je ne comprends même pas, je ne lui ai rien fait. Et là, il va continuer comme ça toute la soirée à ne pas m'adresser la parole. Donc, on va manger sans se parler. À ce moment-là, j'ai un déclic où je me dis, mais en fait, ça va être comme ça toute ta vie. Et un jour... tu vas avoir des enfants peut-être avec lui. Et ce jour-là, tes enfants, ils vont te traiter comme lui, ils te traitent. Tu seras bloqué en plus avec lui. Enfin, je me projette d'un seul coup dans ce futur et je me dis, mais c'est impossible en fait, je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas continuer à subir ce genre de sévices. J'appelle une amie, je lui raconte tout sur le moment et elle me dit Mais Margot, fuis, faut que tu partes, faut que tu appelles tes parents ils sont là pour t'aider, ils sont là pour ça. Et à ce moment-là, j'ai une étincelle et je me dis mais c'est vrai en fait, je devrais pas avoir honte, c'est pas moi. Je garde une partie des détails, mais je leur raconte ce qui se passe. Donc tout de suite, ils m'envoient de l'argent. Ils me disent d'aller au commissariat porter plainte. Ils appellent la police. Les policiers viennent me chercher du coup et m'escortent jusqu'au commissariat. Et le lendemain matin, me déposent au train et je rentre à Paris. Donc bien sûr, je continue, même une fois rentrée à Paris, à recevoir des menaces de mort, des menaces de mort contre ma famille... des insultes, ils trouvent tous les moyens possibles et imaginables pour me contacter. Mais petit à petit, avec le temps, ça s'estompe et je reprends tant bien que mal une vie à peu près normale. Moment-là, j'arrive pas vraiment à me reconstruire. C'est plutôt que je mets les choses sous le tapis. On me conseille d'aller voir un psychiatre, ce que je fais. Et ça m'aide pas vraiment sur le moment. Alors, je fais beaucoup de cauchemars la nuit. Je suis en hyper-vigilance tout le temps, même chez moi. J'ai toujours peur quand je sors de chez moi qu'il soit là. Mais petit à petit, le temps fait les choses, en fait. Donc, je mets un peu tout ça sous le tapis. Je sais que ça ne réglera pas le problème. Je sais qu'il faut que j'en parle, que j'ai un gros travail à faire sur moi. Mais à ce moment-là, je décide plutôt de le mettre de côté et d'essayer d'avancer. Parce qu'en fait, plus j'y pense, plus c'est dur. Plus j'y pense, plus j'ai mal. Et je suis complètement traumatisée. Et donc, je revois des amis, je retrouve un travail, ça se passe plutôt bien dans ma vie à ce moment-là. Je sors pas mal le soir parce que ça me fait penser à autre chose finalement. Je vais chez un ami que je connais depuis très longtemps et en arrivant chez lui, je vois qu'il est avec d'autres amis et notamment un qui retient mon attention, qui s'appelle Mathieu. Alors, il est super beau, il est en costard cravate, donc très classe. Et il est super gentil, on discute toute la soirée, ça se passe super bien. Et à partir de là, en fait, on commence un peu à s'envoyer des messages, ça matche plutôt. Alors, on sert de notre ami en commun pour essayer de se voir. Donc, on lui envoie chacun de notre côté des messages. Tu fais quoi? Tu veux pas inviter Mathieu? Tu veux pas inviter Margot? Et puis, finalement, un jour, notre ami nous fait le plan de, à la dernière minute, non, je peux pas venir, je suis malade. Et en fait, on se retrouve tous les deux. Et c'est comme ça qu'on finit par se mettre en couple. Sur le moment, quand je vois Mathieu, je vois quelqu'un d'extrêmement doux, d'extrêmement calme et gentil. J'ai pas d'appréhension parce qu'en fait, on se voit un certain nombre de fois et c'est quelqu'un de très timide, de très précautionneux dans sa façon de m'approcher. Je vois qu'il a peur de brusquer les choses, qu'il a peur d'en faire trop. Et en fait, je sens que sa personnalité n'a rien à voir avec la personnalité d'un pervers narcissique complètement fou, comme mon ex, en fait. Je vois que c'est quelqu'un de profondément gentil, qui a vraiment bon cœur. Et en fait, toutes les appréhensions que je pouvais avoir à l'idée de me remettre en couple avec quelqu'un et de revivre les mêmes choses, elles s'estompent complètement en fait au contact de Mathieu, qui est une personne vraiment adorable. Donc on s'installe pas tout de suite ensemble. Lui, il habite en colocation avec un ami à lui. Moi, à ce moment-là, je suis encore chez mes parents, le temps de retomber sur mes pieds, d'avoir assez d'argent pour pouvoir reprendre un appartement. Et puis, en fait, la relation avec Mathieu devient assez vite assez fusionnelle. En fait, on se voit très souvent. On voit que ça se passe super bien. Donc, moi, je suis toujours dans sa coloc où lui, il vient chez moi. Et voilà, on se voit très souvent. Puis, à un moment, il me dit, écoute, ça se passe bien entre nous. Moi, je vais me prendre un appartement parce que la colocation va s'arrêter. Peut-être qu'on pourrait s'installer ensemble, en fait. Et en fait, il est tellement gentil, ça se passe tellement naturellement, tous les deux. C'est comme une évidence que je saute le pas. J'hésite pas vraiment, j'ai pas peur. Et je sais que j'ai les armes. Je sais que si ça dérape, je peux repartir tout de suite, en fait. J'ai plus peur, j'ai plus honte. Donc, je me dis, oui, on s'installe ensemble. Et du coup, on prend un petit appartement tous les deux dans le 20e à Paris. Et ça se passe très bien. Ça se passe super bien. Il est vraiment... ça n'a rien à voir avec la relation que je vivais avant. C'est vraiment quelqu'un de gentil et d'attentionné. On grandit ensemble. Moi, je vais pouvoir reprendre mes études. Lui, il finit ses études, puis il trouve un travail assez rapidement. Il gagne très bien sa vie parce qu'il travaille dans l'informatique. Moi, je reprends mes études et puis assez rapidement, je trouve un travail aussi. Et tous les deux, on gagne assez bien notre vie finalement. Ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. On gravit les échelons de la hiérarchie sociale. On gravit les échelons dans nos boulots respectifs et on commence à gagner des salaires assez conséquents. On peut se prendre un appartement un petit peu plus grand et puis moi j'obtiens un poste de responsable, lui aussi. Donc voilà, il y a une espèce d'évolution qui se fait et en fait à ce moment-là on est ravis, quoi. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. On commence à bien gagner notre vie, on habite dans un petit appartement sympa sur Paris. Et puis, on renvoie vraiment l'image d'un beau couple. Ça se passe bien entre nous, il n'y a pas trop de disputes. On est vraiment amis, on est vraiment proches. On se raconte tout et je le considère vraiment comme mon meilleur ami. Il y a plusieurs choses, malgré ça, dans notre relation qui vont pas. C'est que déjà, j'ai jamais pu parler avec lui de mon ex. J'ai jamais pu verbaliser ces choses-là avec lui. Il a toujours changé de sujet. Il a jamais vraiment voulu en entendre parler. Même si ça se passe super bien dans notre relation, je vois bien qu'il y a un décalage. Moi, il y a des moments où finalement, je suis un peu bloquée par des croyances, des choses qui ont été mises en place pendant cette première relation très toxique. Je me rends compte aussi, au fur et à mesure, que finalement, on n'a pas exactement la même vision de l'avenir. Il y a Mathieu qui travaille énormément, qui en fait toujours plus, qui en veut toujours plus. Et moi, à côté, je commence à me sentir un petit peu déconnectée de tout ça parce que je me rends compte que c'est pas forcément ça la vie, que je suis pas très carriériste. J'ai envie peut-être de quelque chose de plus simple. J'aimerais bien qu'on parte habiter en province, dans une plus petite ville. J'ai envie de vivre proche de la nature, de vivre quelque chose de plus calme. Et en fait, je suis prise dans cette espèce de rythme effréné qui m'impose. Pour moi, c'est terrible. Tous les matins, à l'idée de devoir prendre le métro et me rendre au travail, j'ai les larmes aux yeux. J'ai plus vraiment envie de vivre ça, mais en même temps, je suis prise dans cette spirale où tout le monde me dit mais que mon couple il est parfait, que j'ai trop de chance, que j'ai un super appart, que en plus on gagne super bien notre vie, mes parents sont fiers de moi. Et en fait, je me dis oui, enfin c'est ça que t'es censée vivre, Margot, t'es censée avoir un conjoint avec lequel ça se passe super bien, t'es censé avoir un super appart, un super boulot, et tu l'as. C'est super, il n'y a aucune ombre au tableau. Tous les feux sont au vert et tu dois continuer sur cette lancée. C'est ça le bonheur, en fait. C'est ça, c'est ce à quoi tu dois aspirer. Je me voile la face à ce moment-là, en fait. Je ne me sens pas du tout alignée avec ces valeurs-là, mais je ne m'écoute pas, en fait. Encore une fois, je m'étais voilé la face dans cette première relation horrible que j'ai vécue, et là, je recommence à me voiler la face pour d'autres raisons, mais je me dis, mais c'est super en fait ce que tu es en train de vivre. Tout le monde trouve que c'est super, donc pourquoi toi tu trouves pas que c'est super? T'as peut-être un problème. Et en fait, petit à petit, pareil au niveau sexuel, du coup, ça commence un petit peu à mal se passer. Alors moi, c'est à ce moment-là, je continue à me voiler la face. Je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir ma gynécologue et j'en discute un petit peu avec elle. Je lui dis, niveau libido, ça se passe pas trop bien ces derniers temps. Elle me pose quelques questions. A priori, il n'y a rien de spécial à relever. Et elle me dit, vous êtes vraiment amoureuse de votre conjoint? Vous êtes vraiment bien dans votre relation? Et je monte un peu sur mes grands chevaux à ce moment-là et je comprends pas pourquoi elle me pose cette question. Je me dis, mais comment elle ose me poser une telle question? J'ai une vie parfaite avec un conjoint parfait. Tout est à sa place, tout est comme ça doit être. Je retournerai plus jamais la voir parce que je le prends extrêmement mal, en fait, qu'elle remette en question tout mon mensonge. Mais elle a quand même planté un peu cette petite graine. Je commence un peu à me poser des questions, à me dire, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas normal, en fait, de pas du tout avoir envie de rapport sexuel avec son conjoint. C'est peut-être pas normal de pleurer tous les matins à l'idée d'aller travailler. C'est peut-être pas normal de rentrer le soir et d'avoir envie de pleurer parce que je me sens pas bien chez moi, parce que je me sens pas bien avec lui. Avec Mathieu, on parle très peu. Ça, je m'en rends compte. Ça fait déjà quelques années qu'on est dans la relation. Mais la communication est difficile. En fait, il vaut mieux cacher les choses sous le tapis et puis avancer l'air de rien. Donc, je pense que tous les deux, on a des difficultés à se parler. Et moi, quand j'essaye de parler de ces choses-là avec lui, j'ai vraiment l'impression d'être face à un mur et j'ose pas en faire trop parce que j'ai peur que ça dérape. Et en fait, c'est quelqu'un que j'aime tellement et que je respecte tellement que j'ai pas envie de lui faire du mal. Donc il y a certaines choses que j'arrive pas à verbaliser parce que je me dis, mais ça c'est trop, je peux pas lui dire que je questionne mon amour pour lui, je peux pas lui dire que je questionne toute la vie qu'on a. Alors j'essaye quand même de lui parler un peu du fait que j'aimerais peut-être qu'on parte habiter ailleurs, qu'on trouve une maison à la campagne. J'essaye un peu de lui parler de tout ça, mais en fait, il le balaye complètement. Ça l'intéresse pas du tout. Lui, il veut vraiment rester à Paris. Il est boulot à fond. Lui, il se rend pas compte qu'en fait, moi, petit à petit, je me décompose et que j'en peux plus, que je suis malheureuse. Je pense qu'il le voit pas. Un jour, j'ai un ami qui m'envoie un message qui me dit ça te dit pas, ce soir, on va boire un verre tous les deux. Donc, moi, j'accepte. Je suis pas plus emballée que ça, mais je me dis que ça me fait sortir. Puis, ça ferait que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc j'accepte. Donc, on va boire un verre, on se donne rendez-vous du côté de Bastille. Quand j'arrive, il m'indique à quel bar il est installé. Donc, je me rends jusqu'au bar et je vois qu'il est attablé avec plusieurs personnes. Donc, il y a un couple d'amis à lui. Un ancien ami à moi, et puis il y a une quatrième personne assise à cette table, et c'est Romain. Quand j'arrive, alors il est un peu de trois quarts, il me regarde à peine, mais je sens quand on se regarde qu'il se passe quelque chose. Je sais pas, quand nos regards se croisent, il y a comme une petite étincelle, quelque chose, tu vois, je ressens comme une espèce de chaleur. Ça me perturbe complètement. Sur le moment, je suis un peu déstabilisée. Mais bon, il y a du monde autour, j'y prête pas plus attention que ça. Et puis je m'assois et donc je commande un verre et puis la soirée se passe, quoi. Donc on échange avec tout le monde autour de la table. Et c'est vrai que avec Romain, on sent qu'il y a un petit quelque chose entre nous quand on s'adresse la parole, quand on se regarde. Et on sent à ce moment-là, je sais pas comment l'expliquer, mais on sent que c'est réciproque en fait. On se plaît. C'est assez incroyable comme sensation parce que je suis avec Mathieu depuis des années. Des hommes, j'en ai rencontré. J'aurais très bien pu ressentir ça avec quelqu'un d'autre, mais non, j'ai jamais ressenti ça. J'ai comme un coup de foudre, en fait. D'ailleurs, c'est ça, c'est un coup de foudre. À ce moment-là, je le ressens, en fait. J'essaye de m'éloigner de ce sentiment, de vraiment... je suis vraiment réticente à laisser ce sentiment ressortir parce que c'est tellement incroyable. Et puis, je suis en couple, en plus. Donc, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Mets ça de côté, ça va passer. Pas très grand, assez musclé, tout le contraire de Mathieu qui est grand et mince. Il a les cheveux noirs et ondulés. Bon, là, il porte un bonnet ce jour-là. Il a un super beau sourire et puis il a les yeux brillants. Et vraiment, j'ai du mal à détacher mes yeux des siens, en fait. Genre, vraiment, j'ai envie de me plonger dans ses yeux. C'est vraiment l'impression que ça me fait à ce moment-là. Il est super beau, puis ouais, il a des petites fossettes de chaque côté de la bouche et ça lui donne un petit sourire malicieux. Enfin, vraiment, il est, je sais pas comment expliquer ça, il est super beau. C'est vraiment ça que je retiens. Je tombe complètement sous son charme, et c'est pas que physique, quoi, c'est même au niveau des échanges qu'on va avoir ce soir-là. Il y a une connexion qui se fait, on se comprend super bien, on partage plein de choses, on a plein de choses en commun, et vraiment on sent que ça match, quoi. Donc moi, très rapidement dans la conversation, je place que je suis en couple parce que je sens qu'en fait il se passe un truc et qu'il faut à tout prix que je bloque ça, que j'empêche que quelque chose d'irréversible arrive, parce que c'est pas possible, quoi. Ça va complètement à l'encontre de mon plan de vie, de mon couple parfait, de ma vie parfaite. Et là, d'un seul coup, même si je commence à questionner mon couple, là c'est trop rapide. Je peux pas comme ça passer, rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse aussi vite, c'est impossible. Donc Romain me raccompagne jusqu'au Uber et je sais que bon, on a une seule envie, c'est de s'embrasser, quoi. C'est évident, enfin on se quitte pas des yeux, c'est lunaire. Je comprends pas ce qui m'arrive, alors je me dis bon, c'est l'alcool, et puis je monte dans le Uber et puis je rentre chez moi. Et tout le long du trajet dans le Uber, je me dis mais qu'est-ce qui vient de se passer, comment tu peux ressentir un truc pareil aussi rapidement pour quelqu'un? J'essaye de me souvenir de pourquoi je vis la vie que je mène avec Mathieu. J'essaye de retrouver toutes les bonnes raisons qui font que je mène la vie que je mène. Et en fait, ça, d'un seul coup, ça fait plus sens dans ma tête. Il y a comme un interrupteur, en fait, qui est passé de on à off. Et là, je me dis, non. Le malaise que tu ressens depuis quelques années avec Mathieu, c'est peut-être parce qu'en fait, ça va pas. Peut-être que tu es capable de ressentir des choses extrêmement fortes avec d'autres personnes. Peut-être que, en fait, la vie parfaite que tu t'étais promise, que celle à laquelle tu aspirais, à laquelle tu croyais qu'il fallait aspirer, c'est un tissu de mensonges et tu te fais du mal, et puis tu fais du mal à Mathieu au passage. C'est juste pas possible, quoi. Puis je suis vraiment démunie face à ces sentiments que j'ai à ce moment-là pour Romain, parce que d'un côté, ça a été extrêmement bref, mais ça a été tellement fort et tellement vite que je me dis, mais est-ce qu'en fait je serais pas prête pour vivre autre chose? Ça met en évidence le fait que ouais, je suis pas heureuse dans la vie que je mène et que bah, j'ai envie de vivre des choses qui me rendent heureuse. En fait, sur le moment, donc, je laisse Mathieu dormir et je vais dans la salle de bain. Et là, je me dis, ce que je viens de vivre avec Romain, c'est exceptionnel. Je suis bourrée, je vais lui envoyer un message. C'est pas un super move. Je suis consciente que c'est pas quelque chose de très éthique. Mais je me mets à le chercher sur Facebook. Comme on a des amis en commun, je le trouve plus ou moins facilement. Et je lui envoie un message sur Messenger. Je ne sais plus ce que je lui ai écrit. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce que je lui ai dit. Je pense que je lui ai dit qu'il m'avait plu, que j'avais envie de le revoir, que j'avais vécu quelque chose d'exceptionnel avec lui ce soir et que j'espérais qu'il avait ressenti la même chose que moi. Et puis, je vais me coucher. Sans forcément attendre de réponse, mais dans ma tête, je sais déjà qu'il va y avoir du changement dans ma vie, en fait. À ce moment-là, il y a des décisions qui ont déjà été prises. Contre toute attente, Romain me répond, parce que je pensais vraiment pas qu'il me répondrait. Il revient vers moi au bout de quelques jours, et il me dit, bah écoute, ouais, je veux bien qu'on se revoie. Et ça tombe sur un week-end où Mathieu est en déplacement. Enfin, il part chez des amis pour le week-end. Et moi, j'avais prévu de rester à Paris. Donc, je lui dis, bah, écoute, on ne va pas chez moi, mais on peut aller boire un verre si tu veux. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, juste avant d'y aller, je me sens misérable. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est n'importe quoi. C'est ce mec, ça se trouve, j'avais juste un peu trop bu et en fait, il s'est rien passé, c'est juste dans ma tête. Et en plus, je suis en train de faire quelque chose de dégueulasse à Mathieu, quoi. C'est pas normal ce que je suis en train de faire. J'ai pas envie d'être ce genre de personne, mais en même temps, c'est irrésistible. C'est un sentiment, je peux pas aller contre. Donc, on se voit, on va boire un verre et ça se passe super bien. Ça se passe extrêmement bien, tout ce que j'ai ressenti est validé. On vit vraiment un vrai coup de foudre amoureux, quoi. C'est assez incroyable. Et ce soir-là, je trompe Mathieu, en fait. Je le trompe. C'est horrible, je me sens tellement tiraillée par... je sais pas comment exposer mes sentiments vis-à-vis de ça. J'ai honte et en même temps, c'est... vraiment la plus belle soirée de ma vie. Vraiment, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle soirée que j'ai vécue de ma vie. Il y a une vraie connexion entre nous, quelque chose que j'ai jamais ressenti avec personne avant. Je me rends compte que j'ai absolument pas de problème de libido, que en fait j'avais peut-être juste pas le bon partenaire jusqu'à maintenant. Et je me sens extrêmement mal. J'ai la sensation de trahir Mathieu. Et c'est d'ailleurs ce que je fais. Donc je prends une décision. Dès que Mathieu rentre, je lui annonce que c'est terminé. Donc on a une longue discussion, mais je lui annonce que c'est plus possible. Lui essaye un petit peu de recoller le truc, mais il comprend bien qu'effectivement, il y a eu un problème de communication pendant longtemps. Il a bien vu qu'on s'éloignait, il a bien vu que moi, ça faisait longtemps que j'allais pas bien, en fait, mais c'est un peu trop tard pour me le dire. À ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, il voyait très bien et que juste, il préférait l'ignorer. Et que même quand je le verbalisais, et bah, il préférait faire comme s'il ne comprenait pas parce que c'était plus facile pour lui. Donc c'est triste que cette conversation vienne à la fin, mais moi, ma décision est prise. Je dis bien à Romain à ce moment-là que j'attends rien de sa part. Je ne quitte pas Mathieu parce que je veux me mettre avec lui. Je quitte Mathieu parce qu'en fait, je ne l'aime plus. Je quitte ma vie, en fait. Je quitte la vie que j'ai construite qui, en fait, ne me convient pas. Et donc, dans la foulée, je dépose ma démission à mon emploi, où je me sentais très mal, de toute façon. J'ai pas spécialement de plan à ce moment-là, mais juste mon plan, c'est de partir. C'est de partir de Paris, d'aller vivre quelque chose ailleurs. Pour la première fois, en fait, j'écoute ce que mon cœur et ma tête me disent. J'écoute mes sensations, je fais ce que je veux. En fait, j'arrête de tenir compte de ce que pensent les gens autour de moi. J'arrête de me dire ça va rendre mes parents fiers. J'arrête de me dire mes amis trouvent que c'est super. Non, à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, je me fais confiance. Je décide de partir et en fait, Romain, à ce moment-là, me dit « Bah, écoute, j'ai un bateau en Normandie. Si tu veux, viens. Je peux juste te dire qu'il faut le retaper et que ça va pas être une partie de plaisir tous les jours, mais viens si tu veux, on va vivre ça tous les deux. » Donc, je fais mon préavis, je vide mon appartement, j'essaye de faire les choses le plus proprement possible quand même sur la fin. Et on part avec Romain en Normandie. Vivre sur notre bateau. En fait, c'est incroyable cette expérience sur le bateau parce qu'on vit sur un bateau qui est pas dans l'eau, qui est sur terre parce qu'il y a des travaux à faire dessus. C'est un bateau qui prend l'eau par le dessus. Alors il y a de l'eau qui nous coule dessus parfois la nuit quand on dort. On doit se lever à 3h du matin en pleine tempête pour aller remettre des bâches. Voilà, donc on vit vraiment quelque chose d'assez incroyable. Mais en fait, on vit l'aventure. Et à ce moment-là, c'est tout ce que je voulais vivre. On n'est plus à Paris, dans cette espèce d'environnement qui était devenu très anxiogène pour moi. On se parle beaucoup, on communique énormément. C'est-à-dire que tous les problèmes de communication que j'avais avec lui, ils vont se résoudre. C'est-à-dire que lui, il va m'apprendre à parler, il va m'apprendre à dire ce que je pense, il va valider en fait les choses que je lui dis, il va pas mettre les choses sous le tapis, donc on arrive vraiment à échanger. Quand il y a quelque chose qui va pas, on peut le verbaliser, c'est ok de parler des choses. Et ça, c'est nouveau pour moi, j'avais jamais vécu une relation comme ça auparavant. Bien sûr, c'est difficile parce que la relation que j'avais avec Mathieu juste avant, ça m'a quand même brisé le cœur d'y mettre fin parce que ça faisait 7 ans que ça durait. C'était une super belle relation, on était super proches. Mais en fait, ce que je vis à ce moment-là, c'est tellement aligné avec ce dont j'ai toujours rêvé. Cette aventure, ce partage qu'on avait, cette connexion. En fait, je me rends compte que c'est ça que je voulais depuis le début. C'est ça que je recherchais dans une relation, mais que je ne trouvais pas. Et là, je l'ai trouvé en acceptant d'aller boire un verre avec un ami auquel je n'avais même pas vraiment envie d'aller. Du coup, on passe 3 ans sur ce bateau à le retaper, faire plein de travaux dessus, ça nous prend énormément de temps. Moi, je reprends pas un travail classique tout de suite. En fait, on vit un peu d'amour et d'eau fraîche. Lui, il travaille dans le bâtiment. Donc, en fait, dès qu'on a besoin d'argent, hop, on part bosser sur un chantier. Et puis, après, on revient sur notre bateau. On vit un peu de manière débridée, comme ça, où en fait, un mois, on est sur Paris ou ailleurs pour des travaux. Et puis, on travaille comme des dingues pour gagner le plus de sous possible. Et puis, hop, après, on revient 2 mois sur notre bateau et puis on travaille encore et on vit vraiment en pleine nature, l'endroit où est le bateau, il n'y a rien à 10 km à la ronde, donc c'est vraiment isolé, c'est féerique, c'est sur un lac, on a l'impression d'être au milieu de nulle part, on a l'impression de vivre quelque chose d'extrêmement privilégié et surtout on développe entre nous des sentiments qui sont assez fort, donc on est vraiment très amoureux et notre relation se passe mais extrêmement bien. après. Donc ça fait 3 ans qu'on est sur ce bateau avec Romain. Et un jour, il a un accident. C'est le soir, donc on est en train de travailler sur le pont du bateau. Et en fait, on n'a pas de barrière et on est sûrement un peu inconscient parce qu'on travaille parfois sans harnais, enfin, on ne prend pas vraiment de précautions. Et en fait, un jour, il glisse du pont et il tombe de 3 mètres de haut. Et il se brise en fait une vertèbre. Donc les pompiers viennent le chercher. Moi, à ce moment-là, on me fait comprendre que c'est une extrême urgence, que peut-être qu'il va pas remarcher. On me le dit à demi-mot, mais je comprends bien que c'est ce que ça implique. Donc les pompiers l'emmènent. Moi, je suis obligée de rester à ce moment-là au bateau parce que on a des animaux, enfin on a un chien, donc je peux pas partir comme ça. Finalement, j'ai des nouvelles le lendemain. Il l'opère en urgence dans la nuit, donc il va remarcher, même si ça va être compliqué pendant un temps. Donc, il passe une semaine à l'hôpital. Et puis, derrière, c'est environ 3 mois de convalescence où c'est extrêmement compliqué, où il ne peut pas du tout revenir au bateau. Et à partir de là, on a l'occasion de beaucoup discuter et on se dit que il serait peut-être temps qu'on se pose, l'aventure elle est super belle et c'est un souvenir qu'on va chérir toute notre vie, c'est sûr, parce que on a vécu vraiment quelque chose d'incroyable et je pense de privilégié sur ce bateau, mais il est temps qu'on y mette fin et de toute façon c'est compliqué pour lui à ce moment-là de continuer à vivre comme ça, je veux dire, faut monter à des échelles en permanence, c'est pas évident. Donc on loue une maison et je tombe enceinte assez rapidement. Donc 9 mois plus tard, notre fils nous rejoint et finalement le bonheur est complet. Du coup, aujourd'hui, on habite toujours en Normandie, dans une belle et grande maison à la campagne, comme je le voulais il y a 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés. On a un potager, la forêt, juste à côté de nous. On a des poules, des animaux. Finalement, je vis vraiment la vie dont j'avais rêvé. Je vis une vie avec des valeurs qui me correspondent vraiment. Je ne fais plus les choses pour faire plaisir aux autres ou parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend de moi. Je fais les choses parce qu'en fait, elles me rendent heureuse. Et aujourd'hui, je suis heureuse, vraiment. Ces choses que j'ai vécues en fait avant, ces autres relations, je les regrette pas parce que je pense qu'elles ont mené à ça en fait. Je pense que j'avais besoin de réaliser certaines choses. J'avais besoin de vivre certaines choses en fait. Je pense que rien n'est vain dans la vie. Je pense que on vit les choses qu'on vit pour une raison, même si c'est pas toujours marrant. Et en fait, aujourd'hui, je pense que je pourrais pas rêver mieux que la vie que j'ai, quoi.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal ? Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute !
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.